Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Qin, le premier empereur.
Vous avez jamais entendu parler des guerriers enterrés de l'empereur Qin ?
Non.
C'est très connu.
D'où je viens, c'est pas un sujet de conversation.
L'empereur Qin est le fondateur, l'unificateur de la Chine. C'est lui qui a donné son nom à ce pays. La dynastie Qin régna de 221 à 206 avant Jésus-Christ. Elle se situe entre la dynastie Zhou et la dynastie Han.
Premier empereur. À bien des égards, il était surtout un continuateur. Ceux qui lui avaient préparé le chemin songeaient depuis longtemps à reprendre les symboles de la première tentative d'unification, l'époque Zhou, il faut dire Zhou. Oui. Parmi eux, ça c'est notre invité qui approuve, je vais le présenter tout à l'heure. Parmi eux, je parle des symboles de l'unification, il y avait les trépieds. Trépieds qui glissèrent cependant des mains du premier souverain du royaume combattant de Qin à avoir pu les tenir. Il en eut d'ailleurs la rotule brisée. Les temps n'étaient pas encore mûrs. Le premier empereur, c'est d'abord celui qui, la saison venue, eut la chance de cueillir le fruit. Mais sa succession avorta rapidement. Et ceux qui prirent le relais, les Han, se chargèrent de lui faire une réputation détestable. Pourtant, quel qu'ait été vraiment ses torts, il incarne définitivement le choix qu'a fait la Chine, le choix, malgré l'immensité de son territoire, de l'unité. François Thierry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes conservateur à la BNF et au médaille, je vous vois très soucieux de prononciation. Vous pourrez me corriger à chaque fois et j'essaierai de m'aligner.
Hein, je n'y m'inquiète pas.
Ce vendredi 20h40 sur France 5, un documentaire sur le premier empereur et votre livre sur le même sujet paru il y a peu chez Vuibert. Ascension, triomphe, mort et ruine du Qin. Les sources chinoises que vous connaissez bien, issues de la dynastie qui a succédé, sont sévères souvent pour ce personnage, mais l'Occident, lui, a tendance, avant même les découvertes archéologiques de la tombe, à le glorifier un peu comme si c'était Napoléon avant l'heure.
Oui, parce qu'en fait, bon, c'est vrai que les sources chinoises, comme le Sujit Sima Qian, en font un portrait assez détestable. Mais on a découvert aussi d'autres textes tout à fait intéressants. Et puis, ce qui s'est passé pour nous au XXe siècle, c'est la découverte de la tombe. La tombe, en fait, a changé. Si on prend les textes européens du XIXe, Qin Shi Huangdi, on le regarde, nous, occidentaux, avec les yeux des Han encore, les deux des Confuciens. Mais à partir du moment où on va découvrir la tombe, alors il va y avoir une sorte de retournement et ça va devenir un personnage fabuleux. Il faut dire que le Parti communiste chinois avait déjà commencé à réévaluer le personnage.
De la tombe, on parlera à la fin de l'émission, c'est promis. Mais revenons un petit peu à ces termes que j'essayais de poser au début dans le chapeau. La Chine aurait pu faire un autre choix que celui de l'unité, tant est immense le territoire. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire tout ce qui est sous le ciel, l'immensité de l'espace dans lequel nous allons nous mouvoir?
Alors, au départ, la Chine historique, si l'on peut dire, disons, du Xe siècle avant, hein, la Chine d'où va naître, finalement, le Qin, c'est la vallée du fleuve jaune, c'est-à-dire au nord, quand même, des zones semi-désertiques, la grande plaine agricole, à l'ouest, des terres sauvages, montagneuses, et puis, surtout, le sud, qui, au sud, dans ce qu'on appelle la vallée de la Huai, et ensuite le fleuve bleu, ce sont des régions quand même semi-tropicales, très chaudes, très humides, avec une végétation importante. Donc c'est quelque chose qui est très très divers au point de vue géographique. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a plus possibilité de plusieurs États et de plusieurs civilisations. D'ailleurs, il y a à l'époque des Shang, on voit les Shang qui est la grande dynastie de la plaine centrale. Et puis, on voit dans les régions sud d'autres royaumes avec d'autres cultures, d'autres civilisations, comme les Viettes ou les Chou, dont les découvertes ont été faites il y a une dizaine d'années.
Quatrième, troisième siècle avant notre ère, ça va être notre point de départ pour essayer d'expliquer la généalogie du premier empereur. Il y a 1, 2, 3, voire 4, 5, 7 royaumes combattants. Alors, au nord, le plus au nord,
c'est Yan. Non, au nord, c'est Yen.
Oui.
Ensuite, il y en a trois qui sont au centre, c'est Chao, Wei et Han. Au sud, il y a le Chu, qui est un très gros royaume, très puissant. Et puis à l'ouest, il y a le Qin.
À l'ouest du fleuve jaune. Alors, tandis qu'ils se déchirent, ces royaumes vont rester, à l'époque qui précède le premier empereur, travaillés par une sorte d'inspiration, une perspective, ce choix que je nommais l'idéologie de l'unification.
Lâchez-moi, Majesté !
Il approche.
Devant le roi, prosterne-toi !
Je suis le prince de Yen, jamais je ne me prosternerai ! J'implore sa majesté d'arrêter la guerre contre Han. Je t'implore de faire la paix avec les 6 royaumes. Sinon...
Sinon quoi?
Je marche sur toi. Et le sang de Yen se mêlera au tien.
Même si tu me tues, un autre achèvera l'unification. Si je ne puis le faire, depuis 550 ans, plusieurs centaines de royaumes ont été anéantis. Aujourd'hui, il n'en reste que 7. Les plus petits pays veulent s'agrandir. Les plus grands veulent annexer les petits. La guerre jamais ne s'arrête. Depuis 5 siècles, jamais elle n'a cessé. Tant qu'existeront 7 royaumes, la guerre jamais ne s'arrêtera.
Un extrait, on en entendra d'autres, de la grande production de Chen Kej, l'empereur et l'assassin. Vous, ce qui vous intéresse dans votre livre, François Thierry, c'est de montrer ce que partage ces royaumes combattants qui ne cessent de s'affronter violemment les uns aux autres, parce qu'il y a un peu les mêmes structures, le même fonctionnement, avec cette idée qu'il faut militariser la société paysanne pour qu'elle puisse participer à ces combats incessants.
Alors ça, c'est la vision plutôt de Chin. Les autres royaumes, finalement, c'est vrai qu'ils ont, ils forment bon, ce qu'on appelle le Tianxia, ce qui est sous le ciel, et ils ont une forme de connivence idéologique. D'abord, on reconnaît la suprématie du Fils du Ciel, des Zhou. C'est le grand chef, celui dont on est le vassal et dont on s'honore d'être reçu à la cour, de recevoir des dons, de recevoir de la viande, de recevoir des robes. Et tous ces états sont organisés de façon féodale, c'est-à-dire qu'il y a le suzerain suprême qui est le Fils du Ciel, et puis le duc ou le roi, par exemple de Qin ou de Chao, a lui-même en dessous des seigneurs. Donc il y a toute une hiérarchie féodale, et l'espace est organisé de manière très ritualisée en un système, disons, féodal. Alors que Qin va vraiment modifier cette histoire.
C'est plus systématiquement militarisé.
Pas tellement militarisé, fonctionnarisé.
Ah, c'est-à-dire que c'est là qu'il faut que vous nous parliez des légistes, des gens qui codifient.
Alors, les légistes, c'est une philosophie qui apparaît au IVe siècle, en particulier avec Shang Yang. Et eux, ils disent qu'en fait, le fondement de tout État, c'est la loi. C'est pour ça qu'on dit les légistes. Et donc la loi doit être la même pour tous, elle doit s'appliquer partout, et il ne doit pas y avoir de possibilité d'échapper au règne de la loi. Alors que dans le système confucéen, on fait plutôt appel à la bienveillance, à l'humanité, à tout un tas de vertus qui, pour les légistes, n'ont aucun intérêt.
Avec ce royaume spartiate, permettez-moi, une comparaison occidentale, le royaume Qin, le royaume de l'ouest du fleuve jaune, va devenir le plus efficace. Vous dites qu'il parvient à la maîtrise des cols stratégiques, des éventuelles voies d'invasion. Mais alors, pour contenir ses ambitions, il y a coalition des autres, à moins que les autres n'utilisent le système du prince-otage. Faire à la cour de Chao, otage, un prince du royaume Qin. C'est ce qui va arriver à la famille, au père supposé ou officiel de notre héros.
C'est un système qui, comme les royaumes se combattent, ils forment des alliances. Or, pour éviter que l'alliance se déchire, on prend des otages. Et on prend des otages dans les familles princières. Donc, eh bien, on se trouve avec, dans chaque cour royal, il y a les otages des autres cours, des petits princes. Par exemple, comment il s'appelle, le prince Yiren, qui est le père du futur Senshi Wangti, se trouve en otage à Antan, dans le royaume de Chao, avec un prince du royaume de Yen.
Mais on n'a pas encore parlé du rôle très important des marchands, parce qu'il y a beaucoup de choses à échanger, la sidérurgie a commencé, on n'a pas parlé des marchands. Et alors, il y a un marchand à la cour de Chao, qui s'appelle Lu Buwei, et qui décide de faire un pari
sur, comment l'appelez-vous déjà,
L'Irène, la jeune Irène. Alors oui, ça c'est parce que on voit souvent la Chine comme simplement un lieu de bataille et de guerre, mais c'est aussi une économie fabuleuse. Et donc il y a des grands marchands internationaux, et Lu Po Wei fait partie d'une famille des grands marchands internationaux, et il a un de ses emporiums à Hantan. Et là, effectivement, il a repéré l'otage. Il se dit que ça pourrait être quand même une bonne.
Alors, il mobilise sa fortune sur Yireng. Voilà. Yireng, lui, il a repéré la maîtresse.
Alors, Yireng, voilà. Alors, ça, c'est dans une soirée, comme Lu Po Wei invite souvent le jeune otage en disant, bon, on va se mettre bien avec lui. Et il lui a montré, des filles de son harem. Et l'autre, il a repéré, évidemment, la maîtresse du Chaosi, une très belle danseuse. Et,
donc, je lui laisse dire le nom.
Chaosi.
Parce qu'on va la retrouver, d'une fois.
Voilà.
D'ailleurs, il y a toujours une réputation détestable, disions-nous, autour du premier empereur. Certaines histoires, certaines rumeurs répètent qu'en fait, il n'est pas vraiment le fils de Yireng, mais des amours continuées du marchand avec la jeune femme cédée du harem.
Un jour, une personne très âgée m'a raconté que les ancêtres du premier empereur élevait des chevaux ici. C'est une histoire qui se transmet de bouche à oreille depuis 1000 ans au moins.
Quand le prince de Qin était otage du royaume de Jiao, dans la ville de Handan, un certain Lu Po Wei, marchand de son état, lui fit don de sa concubine. Or, cette femme était déjà enceinte quand il la lui donna. Elle accoucha d'un fils. On envoya garder les chevaux dans les prés. Par la suite, le prince devint roi du royaume de Qin. Quand le roi mourut, le petit palefrenier qui avait grandi lui succéda sur le trône de Qin.
Est-il encore besoin de me demander le nom de ton vrai père ? Pauvre roi qui n'a jamais su qui ses ancêtres pouvaient bien être. Celui qui règne sur la population et l'administration, toi qui t'acharnes à détruire les 6 royaumes, tu n'es même pas du sang royal des Qin. Voilà ce qu'on appelle usurpateur.
Bon, on va pas trancher, François Thierry. Ce qui est intéressant, c'est que Lu Po Wei, le marchand, a gagné son pari.
Tout à fait.
Que le cheval sur lequel il avait mis toute sa fortune, Yireng, après avoir été libéré de son statut d'otage, est devenu roi du royaume de l'Ouest, le royaume Qin, et son fils, notre premier empereur, lui a succédé.
Et surtout, Yireng, à ce moment-là, devient premier ministre.
Lu
Po Wei devient premier ministre de Yireng.
Voilà, et puis là, il va toucher la rétribution.
Voilà.
Quand le futur premier empereur accède au trône et qu'il voit se promener dans la vallée le cortège de Lu Po Wei avec ses clients, il trouve que c'est trop. Un peu comme Louis XIV et Fouquet, va finir par le mettre à l'écart.
Alors il y a deux périodes. Il y a la première période qui est la période de régence, parce que quand
vous
il
datez
monte
ça, François Thierry.
Oui. En 247, quand il monte sur le trône, Cheng en fait c'est un enfant, le futur premier empereur, c'est un enfant. Donc à ce moment-là, la régence est assurée par sa mère Chaosi et par Lu Po Wei, le ministre de son père. Donc c'est au début, il est mis un peu à l'écart. Pendant une dizaine d'années, il est mis à l'écart.
Mais quand commence le règne personnel,
alors là,
c'est lui qui met à l'écart. Lu Po Wei va être contraint, déjà exilé, à se suicider.
Ouais.
Et alors la reine mère, elle est devenue la reine mère.
Alors la reine mère,
Chaosi.
Alors elle a un
celle
parcours
du harem.
Elle a un parcours un peu bizarre, parce que Lu Po Wei, qui s'inquiète quand même des bruits qui courent sur sa relation avec son ancienne maîtresse, Lu Po Wei lui fournit un amant. Et la reine-mère se retire avec son amant dans un de ses palais de la campagne, où elle a 2 enfants de ce nouvel amant.
Qui s'appelle Lao.
Voilà, Lao Ai, qui est un pseudo-eunuque, parce que bon, pour le faire entrer au palais, il a fallu faire semblant de le transformer en eunuque. Ça a été toute une histoire. Mais ça, c'est très bien raconté par les sources Han, qui évidemment se délectent de ce genre de choses.
Bah, attendez, on a le récit aussi, nous, dans le film, ça va être le dernier extrait. L'empereur et l'assassin. Lao, le faux eunuque, le vrai amant, il va être débusqué par le premier empereur dont a commencé le règne personnel. Il sera
écartelé sur ordre de notre héros, qui est vraiment un personnage noir. Hein. Et les enfants qu'il a eus avec la reine-mère seront liquidés, et puis toute sa parenté aussi sur 3 générations, tandis que la reine-mère, Chao Si, finira cloîtrée.
Ma mère, tu dois confier tes 2 autres enfants à ton fils.
Jamais je ne pourrai te confier mes 2 enfants.
Mère, puisque tu refuses, je ne réponds plus de rien. Mère, regarde. Sont-ils vraiment tes enfants?
Je t'en conjure.
Lequel avais-tu choisi pour me remplacer? L'aîné ou le cadet?
Ces 2 enfants sont tes frères.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
With flowers and my love hope never to come back.
Les Stones, je veux tout changer en noir. Je regarde à l'intérieur de moi et je vois que mon cœur est noir. Alors, au moment où nous parlons du premier empereur, Tsin, nous sommes maintenant en 221 avant notre ère et que nous recevons François Thierry, conservateur au département des médailles orientales à la BNF et auteur d'un livre, La ruine de Tsin, il faut qu'on justifie quand même ce choix des Stones, c'est le vôtre.
Oui, c'est... Le noir, justement, parce que le noir, c'est la couleur du, par laquelle règne la dynastie Qin, puisque c'est la quatrième dynastie. Et chaque dynastie, suivant la théorie des 5 éléments, règne en fonction d'éléments, donc eau, fer, feu, vous voyez, de couleurs. Et donc, le feu, c'était les Zhou, rouge. Et là, on passe au noir et à l'eau.
Et sa titulature, comment est-elle composée en 221, quand il réunit tous les fils du mandat du ciel?
Alors, il réunit Ting Shi Huangti, enfin donc il n'est pas encore empereur, il réunit une commission de sages et de lettrés, et puis il a dit, qu'est-ce qu'on va me donner comme titre, parce que mon statut maintenant est tellement au-dessus de tout ce qui s'est passé jusqu'ici qu'il faut me donner un titre. Donc on en discute, et finalement c'est lui qui va choisir Huangti, il va prendre Huang, donc souverain, et Ti, empereur, parce qu'il y avait dans l'antiquité mythique, il y avait les 3 souverains et les 5 empereurs, je crois, donc il a coller les 2 plus grands titres, les titres suprêmes de toute la hiérarchie.
Votre hypothèse de travail, c'est qu'il ne fait que continuer l'œuvre d'unification qu'avait dans sa généalogie entamé ses prédécesseurs dans le royaume de l'Ouest. Avec chaque fois qu'il conquiert un territoire, l'unification des mesures,
oui.
L'unification de la monnaie.
De la monnaie, point mesure, écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, à partir de la fin du IVe siècle, à chaque fois que le royaume de Qin s'empare d'un territoire, il le transforme en une province administrée par des fonctionnaires, qui est révocable et contrôlée. Et donc, pour ça, il faut que le centre puisse avoir les rapports, savoir ce qui se passe, et pour ça, il faut donc que ça soit la même monnaie, les mêmes poids et mesures, et la même écriture. Parce qu'évidemment, quand un fonctionnaire du nord de la Chine, de la boucle du fleuve jaune, fait un rapport qui arrive à Xianyang, la capitale, il faut qu'il soit lu. Et le même gouverneur du Sud, quand il est muté au Sud, il faut qu'il puisse faire le même rapport, et donc l'écriture sera la même. Et c'est pour ça que l'écriture, elle est unifiée bien avant 221, contrairement à ce que disent les textes historiques.
Une fouille extraordinaire, beaucoup moins connue que celle de la tombe sur laquelle on reviendra tout à l'heure, 2002, on découvre 36 000 manuscrits sur bois et bambou dans un puits dont la moitié correspond à l'administration de notre premier empereur.
Oui, alors ça c'est une découverte qui malheureusement n'est pas encore entièrement publiée, parce que les archéologues chinois n'ont pas fini de nettoyer, de traduire le matériel. Mais on a eu une découverte similaire en 1975, où on a découvert dans une tombe, la tombe d'un haut fonctionnaire de l'administration judiciaire, on a trouvé des documents extrêmement importants. Il y avait la chronique des événements importants, c'est une sorte de liste de choses qui se sont passées. Il y avait le 18 règlements de Qin. Alors là, c'était très intéressant parce que c'était une suite de règlements, de lois qui concernaient tout ce qui était administratif, économique, contrôle policier,
marché. Tout est codifié, vous dites, dans la tradition de ce que nous nommions tout à l'heure les légistes. Mais je voudrais aussi qu'on comprenne qu'il y a 100 écoles de lettrés qui se sont épanouies pendant les royaumes combattants et qui demeurent confucianistes, non-confucianistes, anti-confucianistes, peu importe.
Taoïste.
Alors, ces gens ont l'habitude de poser la question de la responsabilité du prince et de dire que si tyrannique soit le gouvernement, le lettré ne change pas ses principes. Comment ça va se passer avec le premier empereur centralisateur et eux?
Ah ben lui il va s'appuyer sur les thèses légistes, c'est-à-dire que les thèses légistes sont très simples, c'est à chaque situation nouvelle d'une société on doit appliquer les lois nouvelles. On ne peut pas prendre les textes de Confucius qui datent de plusieurs siècles pour résoudre les problèmes du 3e siècle. Donc c'est très simple, les traits il faut qu'ils se mettent à l'école, si l'on peut dire, à l'école de
ou bien on les bouillantera, ou bien on le tuera, on l'enterrera vivant. Et vous faisiez une référence implicite à Mao. Il a maintenant, Lu Buei ayant été suicidé, un nouveau premier ministre qui s'appelle Li Se, et dont vous dites qu'il est à peu près au lettré ce que Madame Mao est au marxisme, et qui va condamner au feu, 213 avant notre ère, tous les écrits pernicieux du confucianisme. On ne va garder que ce qui concerne l'administration, les mathématiques.
Pas seulement du confucianisme, ça c'est ce que les confucéens ont écrit après. Mais effectivement, les textes confucéens, oui. Mais tout un tas d'autres textes philosophiques. Tout ce qui était de la philosophie, des discours, ça n'intéresse pas les légistes et le gouvernement de Zhu Hongqi. Donc ça, oui, on va les liquider, on va les brûler. Mais en fait, il en restera énormément, puisque tous les textes, on les a actuellement. Donc tout n'a pas été vraiment brûlé. Mais c'était un auto-da-fé.
La rançon de ce système un peu paranoïaque, c'est l'angoisse. Parce qu'il est fondé sur la peur plus que sur l'adhésion.
Ouais, tout à fait.
L'angoisse des attentats, l'angoisse des présages.
Ouais.
Et alors, quand il fait ses voyages, alors, on nous dit dans les annales officielles, la sagesse du souverain empereur s'est rendue aux quatre côtés du monde pour les inspecter. Vous ne les voyez pas comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 voyages.
Oui, il y en a 7, parce que les premiers, on ne les compte pas en général, mais ils existent. Oui, parce que ce n'est pas seulement des tournées d'inspection, ça c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, quand on voit ce qu'il fait, il y a beaucoup plus de passages rituels, de sacrifices. Il sacrifie beaucoup aux montagnes, aux rivières. Il reste des mois entiers devant l'eau, devant la mer. À Langya, par exemple, il regarde la mer. Et il y a des passages qui ne sont pas simplement, il va pas vérifier dans chaque préfecture qu'est-ce que vous avez fait. Ça, c'est pas du tout ça. Non, on emmène toute une cour. D'ailleurs, c'est une cour de chariots qui se déplace et avec les musiciens, avec les cuisiniers. Et c'est plutôt des voyages à la fois d'agrément. Et puis, en plus, des sortes de rondes mystiques pour prendre la mesure de son territoire.
Oui, enfin, quand la montagne n'est pas favorable, on punit la montagne. Le dernier voyage, 210, se termine tragiquement parce qu'il est malade, il meurt pendant le voyage.
Oui, il meurt.
On met un eunuque à sa place dans le char pour continuer la progression jusqu'à la capitale et ne rien révéler.
Voilà,
Et ce qui était quand même fascinant dans l'histoire de votre personnage, c'est qu'à peine disparu, mais peut-être toute la débâcle avait commencé avant, l'Empire s'effondre. En l'espace de quelques mois et de quelques années, en tout cas.
Ah oui, oui, quelques mois. Bah, il s'effondre parce qu'en fait, toute la formidable machine politique, militaire, économique qui avait servi pendant un siècle ou deux siècles à construire l'Empire n'était peut-être pas la mieux adaptée pour le conserver. Et ça, c'est la grande question, finalement. Comment est-ce que un empire qui a écrasé tous les royaumes, les six royaumes, qui étaient supérieurement armés, s'écrouler devant des pics de paysans? Ça, c'est la grande question que poseront les philosophes.
Pourtant, dans son mausolée, à l'est de sa capitale, laquelle était peuplée de palais reliés par des réseaux souterrains, il avait disposé des armées pour le protéger. Alors, ces armées de terre cuite, l'une d'entre elles, au moins, on la visite sur place maintenant, à grands frais. Il arrive que certains de ces soldats de terre cuite se déplacent jusqu'en des expositions. Il y en a une à Berne actuellement, il y en avait une en 2008 à la Pinacothèque de Paris. Ça avait donné lieu à cette dramatique de France Inter, Patrick Legibel et Jacques Taroni.
Venez, allons directement au statut.
Je sais pas.
Venez, ça prendra qu'un instant. Vous voyez?
Oui. C'est très étonnant.
Ces statues de terre cuite appartiennent à l'armée de Tsin. On les a retrouvées dans des fosses à moins de 2 km de la tombe de l'empereur. La première fosse contenait plus de 8000 soldats.
8000 comme ça? De cette taille?
Oui, de taille humaine. Et chacune est le portrait d'un soldat qui a réellement existé.
Quel boulot!
Cette armée enterrée est composée principalement de fantassins, mais aussi d'archers, d'arbalétriers, de chars, de chevaux, de cavaliers et de quelques généraux.
Ça doit peser des tonnes.
Non! Elles sont creuses à l'intérieur. C'est la découverte la plus importante depuis Toutankhamon. Et encore, les archéologues n'ont toujours pas fouillé la tombe de l'empereur.
Qu'est-ce qu'ils attendent?
D'en savoir un peu plus sur les pièges qui la protègent. On parle d'un lac de mercure qui pourrait se déverser et tout détruire, et d'arbalètes cachées dans les trappes contre les pillards.
À Pékin, les 4000 échantillons de terre prélevés dans la colline funéraire ont tous été analysés. Et il confirme la légende. Il y a du mercure dans le mausolée. En énorme quantité.
Ils savaient se protéger.
Les ouvriers ayant préparé le tombeau et assisté à l'enterrement auraient été emmurés vivants dans le mausolée à la fin de la cérémonie, afin que les secrets de sa construction ne soient pas divulgués.
En Chine, ça rigolait déjà pas à l'époque.
Alors les archéologues chinois, plutôt que d'être terrifiés par quelque chose d'équivalent au secret de la tombe de Toutankhamon, ils attendent surtout d'avoir des techniques les plus appropriées possibles, un peu plus d'argent aussi. Et alors, peut-être qu'aux autres points cardinaux, au nord, à l'est, à l'ouest et au sud, il y aurait des armées similaires?
Ah, c'est pas impossible, oui, ça, on ne sait pas. Mais il y a aussi le fait, et bien sûr, d'abord, les techniques. Il faut que les techniques permettent la fouille. Avoir l'argent, parce que les Chinois, quand même, aussi, chez eux, il y a un problème d'argent. Et puis, il y a aussi le problème de la destruction. On s'aperçoit que l'air et la fréquentation des touristes fait que les statues actuelles se dégradent. Hein, les pigments, par exemple, se dégradent. Donc, je pense que là, il y a du point de vue chinois une certaine raison à ne pas fouiller, tout ouvrir pour tout voir. Ça, quant à savoir ce qu'il y a dans la tombe elle-même, ça, alors là, je pense qu'il n'y a plus rien parce qu'elle a été pillée. On sait qu'elle a été pillée.
Alors, il y a une reconsidération depuis l'époque communiste du personnage du premier empereur. Il y a les découvertes archéologiques comme celle-ci. Vous parlez aussi beaucoup dans votre livre, La ruine du Tsin, chez Vuibert, des stèles qui étaient posées, notamment lors de ses voyages. Dernière hypothèse de travail, la personnalité de l'empereur peut avoir été un facteur déterminant l'échec de l'Empire.
Oui, je pense qu'effectivement, le personnage n'est pas à la hauteur de ce qui lui est arrivé. Il est arrivé à un moment, effectivement, et comme il le dit dans un des passages qu'on a écouté tout à l'heure, si c'est pas moi qui fais l'indication, vous pouvez me tuer, il y en aura un autre. Et effectivement, la tendance était à l'unification de la Chine par le Qin qui était le plus puissant. Donc,
après, il y a eu les Han, leur dynastie a été beaucoup plus durable. Alors vous dites, c'est pas des saints non plus,
mais eux, ils ont su faire l'amalgame du légisme et du confucianisme.
Et puis, ils ont su avoir une base sociale suffisamment forte.
Oui, beaucoup plus étendue. Alors que sous Qin, ce qui fait la force de Qin, c'est ses fonctionnaires. Mais les fonctionnaires vivent dans la terreur perpétuelle, parce qu'eux-mêmes sont contrôlés en permanence. Dans les textes qui sont sortis de Yun Meng, on voit le contrôle des fonctionnaires, mais c'est épouvantable. Avec les punitions, les amendes, les envois pour construire la muraille, le travail forcé. Donc, effectivement, les Han ont su s'organiser une base sociale plus large et donc finalement avoir la possibilité de durer.
Vous parlez au fond, François Thierry, un peu comme les lettrés parlaient à l'empereur en lui disant d'y aller modérément. Mais eux, c'était au péril de leur vie parce qu'ils risquaient d'être ébouillantés si l'empereur était mécontent. Ce soir, sur France 5, le documentaire sur le premier empereur et votre livre chez Vuibert. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Martin Cellier. À la technique, Élodie Royer, Michel Thomas, la réalisation, Jacques Sigal. Demain, on parlera d'archéologie sous-marine. Les bateaux du grand siècle, on peut les faire parler.